Bonjour à toutes et à tous, Radio Grenouille 88.8. Comment devient-on chercheur? Quel tortueux cheminement nous amène à faire de la curiosité une profession? Pour en parler aujourd'hui, des étudiants en thèse de tous horizons, certains sociologues, philosophes, archéologues, juristes, d'autres médecins, physiciens ou biologistes. Ensemble, ils se tournent vers leur passé respectif et se souviennent de ce qui a motivé leur choix. On va commencer ce groupe de paroles par la question qui chapeaute un peu du coup ce qui va guider le débat et la réflexion. Quelle est ma mission de chercheur? En quoi consiste le métier de chercheur et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui pour en discuter et pour débattre? On va commencer par trois petites chroniques un peu amusantes, dont une en anglais de Hussein, une autre de Clara et une autre d'Adrien.
Good morning. I am Hussein Hamdi, neurosurgeon. I'm doing my PhD in the first year in Marseille. I would like to express my interest and message for the public awareness, orientation and tendency toward the early detection and the prevention of the disease. It will be of a great value for the persons, for the community and for the economy, saving millions and billions of euros spent on treating the disease in the late stage. The public awareness and the prevention, prophylactic, is always better than the treatment itself. For example, in the field of the cancer, for example, the breast cancer, when it's discovered in 1 centimeter diameter in the early stage, it can be completely cured. It depends on the patient awareness, personalized self-examination. The same can be with the smoking, with genetic counseling, for personalized susceptibility and planning of the upcoming offsprings. My message, just to address and deliver the essential public information by many ways, by TV, by radios, by newspaper, focusing on the essential tips to predict and prevent and diagnose the disease in the early stage depending on the personalized awareness. Thank you.
Bonjour, je m'appelle Clara Gomez, je suis en troisième année de thèse en sciences de gestion et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Dès l'école primaire, j'ai éprouvé ce sentiment particulier de l'injustice sociale. Je pense que depuis toujours, je vis les injustices sociales comme un affront personnel qui me culpabilise de ma place dans cette société. Je n'ai jamais vraiment compris comment certains individus parvenaient à imposer une certaine domination sur d'autres. J'ai donc bien évidemment, comme toute bonne personne altruiste, travaillé dans une association. Pensant au départ pouvoir changer le monde, j'ai vite compris que dans l'associatif, cela fonctionnait de la même manière que dans d'autres milieux. Après avoir été révoltée par l'organisation de grosses ONG et de leur impact sur d'autres pays, je me suis dit qu'il ne servait à rien de s'indigner sans réellement comprendre les rouages du développement. Mais alors, qui sommes-nous pour dicter aux autres comment se développer sous prétexte de les aider? Faire une thèse, mais pourquoi pas? Là, je pourrais questionner à ma guise le fonctionnement de ce monde. L'objectif était alors pour moi de porter un regard, une certaine réflexion sur un sujet et qui plus est avec les personnes qui le composent. Je ne prétends pas pouvoir changer un système, je n'estime d'ailleurs ni en avoir les capacités, ni avoir un impact très important. En revanche, j'enseigne et je fais une thèse. Et j'espère qu'à ma toute petite échelle, je pourrai fournir des outils, des grilles de lecture à mes étudiants pour qu'ils puissent développer un esprit critique sur les complexités de nos sociétés. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de travailler sur les pratiques des associations à travers la mise en œuvre de projets de développement.
Je m'appelle Adrien Reggio, je suis originaire de Marseille, plus précisément des quartiers nord. Je me suis toujours intéressé aux populations du passé et à l'histoire. J'ai donc fait un parcours en archéologie à l'université d'Aix. Donc je suis maintenant en doctorat et je travaille sur les outils de pierre taillée des premiers agriculteurs, donc il y a 6000 ans environ. Et au fur et à mesure de mes études, je me suis aperçu qu'on a beaucoup à apprendre de ces populations qui ont en fait beaucoup de problématiques communes aux nôtres, notamment sur la migration ou l'environnement.
Et pour commencer, on va poser cette question-là. La parole, est-ce qu'elle se limite à la sphère scientifique quand on est chercheur et quand on est doctorant comme nous? Du coup, je vais passer la parole à qui veut. Alain, par exemple.
Oui. Alors moi, je dirais que non, parce que par exemple, moi, je prends mon propre cas, si je me suis intéressé aux sciences, c'est parce que justement, j'ai entendu des scientifiques qui en parlaient, non pas à un public scientifique, mais à un public qui ne l'était pas, donc moi, plus jeune. Et c'est justement ce qui m'a amené à en faire mon métier par la suite. Donc c'est extrêmement important, je crois, pour les chercheurs de parler de leur métier en dehors de cette sphère-là.
Très bien. Et Clara, tu as parlé d'enseignement. Tu peux nous dire juste deux, trois mots sur cette interlude qui était en lien avec cette question-là?
Je pense que la parole scientifique est nécessaire, mais qu'elle doit être interprétée, quoi, ou en tout cas dite dans certains cadres. Notamment, on peut essayer de l'exprimer lorsqu'on fait de l'enseignement. Et dans ce cas-là, on doit quand même s'adapter à un certain public, à notre public, pour essayer de susciter déjà de l'intérêt, et susciter aussi un développement critique par rapport à une certaine matière, une théorie. Avec nos étudiants. Mais je pense que la parole scientifique est importante, mais qu'il faut qu'elle prenne plusieurs cadres, plusieurs canaux.
Comme par exemple la famille. Oui. Parce qu'on parle d'enseignement, mais l'enseignement, c'est aussi la famille.
Et ça, quel que soit le domaine, je tiens à préciser quand même.
Oui, quel que soit le domaine.
C'est-à-dire
On fait la recherche dans n'importe quel domaine. Toi, par exemple, dans le domaine de la forêt, moi, c'est dans le domaine biologique. Il y en a qui font de la gestion, on a tous envie de diffuser notre savoir, quoi.
D'accord.
C'est ce que je voulais dire.
Toi, oui, par exemple, vrai. Manon, comment tu fais pour vulgariser? Tu travailles sur quoi, déjà?
Déjà, moi, donc, je travaille sur l'écologie forestière, et plus particulièrement, comment adapter les forêts au changement climatique. Donc, c'est super sexy comme titre. C'est vrai, en plus, hein, les gens pensent que tu es le sauveur du monde. Et d'ailleurs, à ce propos-là, c'est vrai que ça m'arrive souvent quand, par exemple, dans les transports en commun, quand je suis à côté d'une personne qui est sympa, on commence la discussion et puis forcément on arrive au moment où on dit et alors qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton métier? Donc à ce moment-là tu te dis moi je fais de la recherche sur la forêt, changement climatique, tous ces mots, ces gros mots qu'on peut entendre beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit si tu travailles sur la forêt, dans ce cas dis-moi qu'est-ce que je vais mettre comme essence dans mon jardin. Et malheureusement, ça, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, et puis après, elle a enchaîné sur des choses comme, par exemple, cette essence-là, je ne l'aime pas du tout, elle prend feu tout le temps, etc. Il se trouve que ça faisait partie de mon sujet, c'est le pain d'Alep. Et alors, à ce moment-là, j'ai dû expliquer, mais non, vous savez, tout le monde, personne n'aime cet arbre-là, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc là, j'explique l'écologie de l'arbre à cette personne. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que je fais une forme d'enseignement hors cadre. Et c'est pareil dans la famille, hein, on a toujours quelqu'un qui va raconter ce qu'on juge être une bêtise.
Non mais on est tous confrontés à un interrogatoire, je sais pas, à Noël, à Pâques ou quoi que ce soit. Et du coup, vas-y Camille, t'as une petite expérience à nous partager, je crois.
Oui, moi je trouve que c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres. Voilà, je pense que notamment en sciences humaines, on est amené à traiter des questions qui sont clairement des fois des questions politiques, ou qui sont très reprises dans le débat politique. Moi, je travaille je fais de la géographie des migrations au Maghreb, donc je travaille sur les questions de contrôle migratoire, de frontières. C'est un sujet politique, et je vois que, notamment dans ma sphère familiale, c'est très compliqué, en fait, de faire passer un message, puisqu'on a beau expliquer que notre message se base sur des enquêtes de terrain, etc., la parole est forcément, passe nécessairement par ce filtre, en fait. Ce filtre qui est. Angélique qui parlait de ça, le filtre des représentations, quoi. Voilà. Et donc, à mon avis, il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres. Moi, j'ai une difficulté, en fait, à porter ma parole hors de la sphère scientifique, puisqu'on me taxe nécessairement de gaucho. Voilà.
D'accord.
Donc, okay. Du coup, tu fais quoi maintenant? T'en parles ou juste t'as décidé de plus en parler du tout?
Maintenant, moi, j'ai développé une technique d'analyse des gens. Voilà, donc, je sais à peu près, en posant quelques questions, quel va être leur positionnement, s'ils vont plutôt être ouverts au débat ou s'ils ont des idées qui sont très carrées, très préconçues. Et puis, en fait, maintenant, pour me protéger, j'évite de débattre avec des gens qui n'en ont pas envie, quoi, tout simplement.
Vas-y, Angélique, fais-toi plaisir.
Oui, je suis assez d'accord. Enfin, je sais pas si je suis complètement d'accord, en fait. Mais déjà, le terme de vulgarisation, il me plaît pas. Il me plaît pas, même si c'est pas le terme, enfin c'est pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Mais je pense que déjà on est payé par le gouvernement pour information.
Pas tous.
Pas tous, mais en tout cas, ceux qui sont sous contrat doctoral sont payés par le gouvernement. Donc, en fait, c'est un juste retour des choses que de faire en sorte que nos travaux soient publics, et en tout cas de les faire partager. Je préfère le terme de partage au terme de vulgarisation, en fait. Tu vois ?
Pas de problème.
Voilà. En termes d'accès, accessibilité, de partage, tout ça, je préfère. Après, moi aussi, je travaille sur les inégalités professionnelles basées sur le genre et l'impact des représentations sociales, justement, bah, sur les carrières féminines. Voilà. Donc, je rejoins Camille là-dessus, c'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est pas forcément très drôle, c'est un sujet qui est politique, c'est un sujet qui peut être débattu aussi en repas de famille. Moi, j'ai arrêté de le faire personnellement parce que à chaque fois, c'est les Balkans, donc voilà. Mais oui, le curseur, la question du curseur, quel est l'espace finalement qu'on va se dégager pour pouvoir parler de notre sujet aujourd'hui, c'en est un. Voilà, aujourd'hui, c'en est un. On a l'opportunité de le faire.
C'est vrai.
Voilà, grâce à Radio Grenouille. Donc, voilà. Mais comment on le fait ? Est-ce qu'un chercheur, il peut être aussi militant ? Est-ce qu'un chercheur, il peut... quelle est l'approche qu'on doit avoir aujourd'hui ? J'arrive pas forcément à répondre à cette question-là.
Ça, c'est une question qu'on va aborder un peu plus tard. Mmh. Mais j'ai envie de vous faire écouter la chronique de Manon. Un petit enregistrement très bucolique, très sympa, qui va nous emmener vers une progression du débat. Sur une deuxième question.
Bonjour, alors moi je m'appelle Manon, je suis doctorante dans le domaine de l'écologie forestière. Et si l'on devait essayer de comprendre pourquoi ou comment j'ai atterri là-dedans, alors je me plairais à raconter cette petite histoire. Quand j'étais petite, j'ai toujours adoré crapahuter dans la nature. J'étais passionnée par les animaux, les insectes que je pouvais voir lors de nos sorties. En vacances à la campagne, on construisait des cabanes avec mes cousins, on jouait dehors. Et pour moi, la nature était merveilleuse. J'étais émerveillée petite par la richesse qu'elle renfermait. Des insectes cachés partout, des champignons, des oiseaux qu'on entend mais qu'on ne voit pas, et des terriers qui laissent deviner des blaireaux ou des renards. Et elle récompense ceux qui attendent et qui acceptent de se fondre dans le paysage, de se laisser aller à la lenteur. Alors seulement on voit l'oiseau sur une branche, la biche au loin qui nous oublie et la grenouille au bord de la mare. Et plus grande, j'ai été émerveillée par son fonctionnement si complexe, si parfait. Alors j'ai voulu savoir plus et plus. Et maintenant, je continue d'apprendre tout en cherchant.
Et donc voilà, merci Manon, c'était absolument génial. Et on va reprendre du coup, à travers cet extrait-là, le fait de diffuser justement cette parole. Et est-ce qu'elle doit être vulgarisée et diffusée à grande échelle, quitte à lui faire perdre un peu de complexité ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer là-dessus ?
Oui.
Vas-y, Adrien.
Oui, donc sur la diffusion, c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'on a tous des sujets super complexes.
Tu travailles sur quoi, toi, par
exemple ? Moi, je suis en archéologie et je travaille sur les outils de pierre taillée des premiers agriculteurs. Donc, il y a à peu près 6 000, 8 000 ans. Donc, il y a plein d'aspects qui rentrent en compte. Et je pense que quand on diffuse, on a tendance à vouloir tout expliquer. À tout expliquer déjà, dans mon cas, sur ma période chronologique, j'ai envie d'expliquer les méthodes, les quelques résultats que j'ai. En fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à se recentrer et à diffuser des aspects de notre recherche, selon à qui on va parler. Par exemple, nous, en archéologie, quand on étudie les populations du passé, il y a des aspects environnementaux. Donc des fois, on voit qu'on est face à des gens ou à un public auquel on va parler plus de cette question parce qu'ils vont en être demandeurs. D'autres, c'est sur autre chose. Il faut qu'on arrive à simplifier nos sujets. Et oui, il n'y a pas à évoquer toute la complexité en choisissant, selon l'espace de parole qu'on a, un aspect de notre recherche.
Souvent, on critique la vulgarisation parce qu'elle a des défauts, bien entendu. Mais est-ce que ça ne vous paraît pas un bon outil pour faire découvrir la science et pour faire découvrir certaines thématiques qui peuvent être... qui sont obligés d'être vulgarisés si on veut toucher un certain public, notamment les jeunes.
Ça dépend peut-être un peu du sujet, mais clairement, comme on l'a déjà dit, mais les émissions type C'est pas sorcier, enfin, je trouve ça génial, quoi, n'étant pas une scientifique fondamentale, une scientifique dure, ce genre d'émission, ça nous fait découvrir des choses, ça nous donne envie d'aller voir ailleurs et d'aller creuser. Donc oui, ça... C'est compliqué, en fait, sur toutes les sciences, je pense. Je ne sais pas si un C'est pas sorcier sur les sciences sociales, ça serait très intéressant. Non, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas.
Moi, je trouve ça intéressant parce que je suis confronté à ce problème de la vulgarisation, notamment sur, bon, sur mon sujet. Ce sont principalement les organisations internationales qui font de la vulgarisation. Et on se rend compte, quand on regarde bien ce qu'elles produisent comme, comme documents, etc., que c'est une vulgarisation qui soustrait, en fait, tout l'aspect critique, la portée critique du travail qu'on peut faire, pour finalement sortir une, je sais pas, une sorte de propos très lisse, très consensuel, et qui finalement enlève toute la portée de la recherche, qui est quand même de se poser des questions à la base sur ces sujets-là. Mmh. Voilà. Donc il y a vulgarisation, et puis il y a... d'autres choses qui sont...
Vas-y, Clara. Et de plus en plus, quand même, en tout cas en sciences sociales, donc moi je travaille sur les ONG de développement et sur la mise en place des projets de développement. Et de plus en plus, quand même, les chercheurs sont associés aux pratiques directes. Et à un moment donné, en tout cas en gestion, on est obligé de formuler des recommandations pour l'entreprise ou l'organisation avec laquelle on travaille. Et c'est aussi un travail de vulgarisation. Par exemple, pour ma part, j'ai eu associé à ma thèse une mission d'expertise, donc ça serait plutôt un consultant qui serait amené à faire ça, sauf que là, ils ont fait appel à des experts et des chercheurs, donc des consultants et des chercheurs. Et on avait le devoir, en tant que chercheur, à un moment donné, de fournir un document accessible à tous, et notamment à des personnes qui voudraient reproduire un projet de développement dans un autre pays. Et donc, il faut absolument arriver, en tant que chercheur, à produire des documents accessibles à d'autres et appropriables dans plein de contextes. Et c'est aussi le devoir du chercheur, à un moment donné, de se remettre en question de comment est-ce que je diffuse le message et comment je le rends accessible sans perdre quand même la qualité de critique, de remise en question qui est propre à la recherche.
C'est un exercice quand même, qui est quand même très compliqué.
Surtout pour les chercheurs.
C'est un exercice qui est très compliqué, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en gestion, je rejoins ce que tu dis, parce que je suis en gestion aussi, en GRH, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une science qui est quand même très pragmatique, quoi. Donc c'est vrai que ça nous crée un petit espace de diffusion de nos travaux. Ça, c'est vrai. Après, je pense que ça serait dommage que ça se limite à ça, en fait. Tu vois, ça serait dommage que nos travaux se limitent finalement à juste aux entreprises. Ça serait bien qu'on puisse le diffuser un petit peu partout.
Moi, je crois, t'as raison, mais je crois, enfin, t'as raison, mais en même temps, je suis pas d'accord parce que se limiter en fait à ces acteurs-là, c'est oublier quels sont les intérêts de ces acteurs à se réapproprier les travaux des scientifiques. Voilà, eux, ils ont tout intérêt. Bon, je suis peut-être anti-privé, je sais pas. Mais moi, je crois vraiment, en tout cas en ce qui concerne les organisations internationales, qui sont l'équivalent des entreprises pour nous, qu'elles ont tout intérêt à poser le nom de chercheurs qui font des vrais travaux. Nous, on mène de vraies enquêtes au Maghreb. Voilà. On va sur le terrain, on va voir qui sont les migrants, on retrace leur trajectoire. Ce travail-là, moi, je veux pas qu'il puisse être réutilisé par des organisations qui vont en faire ce qu'elles veulent et qui va servir finalement des intérêts que nous, on est amené à, en tout cas, à remettre en question. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être méfiant avec la vulgarisation à destination des entreprises ou à destination de tous les organismes.
Mais je pense qu'il y a des différences selon les thématiques aussi et les sujets, parce que nous, clairement, en écologie, moi, je travaille sur les feux, tu vois. Et les feux, en été, il y a toutes les radios, tous les journaux qui se déchaînent pour avoir une interview ou un petit texte, pour avoir un petit article, parce que c'est en train de cramer partout. Et moi, je serais ravi de le faire. Et je serais ravi de le faire sous plein de formes. Je serais ravi de le faire, je sais pas, sous BD ou je sais pas, participer. Mais même maintenant, là, ce qu'on est en train de faire à la radio, j'adorerais parler à la radio l'été pour essayer de parler de mon sujet. Ça m'intéresse énormément parce que pondre des articles scientifiques, tout ça en anglais, pour franchement, il y a trois péquenots qui vont les lire mes articles. Ouais, je préfère parler à la radio pour que ma mère elle comprenne ce que je fais. Tout simplement. Et ma mère ou les autres mamans, je regarde.
Parler sur Radio Grenouille, c'est une chose. Parler sur BFM TV en est une autre.
Bien sûr.
C'est un autre débat.
Du coup, avant de passer à ce débat-là, et pour rester en lien avec la vulgarisation, il y a deux chroniques qui sont assez intéressantes. Une qui aborde avec humour la motivation, celle d'Alain, qui parle de crevettes et de tétards, mais j'en dis pas plus, vous allez vite, très très vite le savoir. Et celle de Geoffrey, qui est très concise, mais très compréhensible.
Elle vole autour de nous, et pour peu que nous lui accordions notre attention, c'est pour la chasser, ou bien la tuer. Moi, j'ai choisi de l'étudier. La mouche du vinaigre, ou Drosophila meanogaster, de son joli nom latin. Je m'appelle Alain, doctorat en biologie, et je consacre mon temps à essayer de comprendre comment les cellules qui composent un tissu changent de forme et s'organisent entre elles pour structurer un embryon. Alors oui, vous allez me dire, c'est fondamental. Eh bien, je le revendique. Et s'il n'est pas toujours facile de faire comprendre la portée de mes travaux, je suis intimement convaincu qu'un jour ou l'autre, ils feront mouche. Comment suis-je devenu chercheur ? Eh bien, j'ai toujours aimé la nature. Petit, je passais des heures à torturer de pauvres colonies de fourmis, à prélever des têtards qui, bien souvent, mouraient quelques jours plus tard dans un aquarium improvisé. Chez moi, j'ai élevé de petites crevettes, des plantes carnivores, je collectionnais des fossiles aussi. Alors je ne sais pas si on peut parler vraiment de vocation, c'était avant tout un amusement. Pas certain qu'à l'époque je cherchais à savoir ou à rationaliser ce que j'observais. C'est plus tard que l'on m'a fait comprendre que cela pouvait devenir un métier, celui de biologiste. Alors j'ai tenté l'aventure sans savoir vraiment de quoi il retournait, un peu par hasard. Et puis de fil en aiguille, j'en suis venu à faire une thèse. Aujourd'hui, je suis loin de mes têtards, de mes fourmis, mais je continue toujours à éprouver le même joie lorsqu'en spectateur privilégié, derrière mon microscope, se déroule le grand spectacle de la vie.
C'est quand même marrant d'être là. Comme beaucoup de monde, j'ai adoré Good Morning Vietnam, Good Morning England. C'est ma première fois derrière le micro et ça fait plaisir d'être là. Bon, revenons à nos moutons. Je m'appelle Geoffrey, je suis en première année de thèse, mon domaine de recherche étant l'immunologie. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Déjà, il faut savoir que depuis tout petit, je suis intéressé par la science. C'est un peu con, mais quand j'étais petit, mes parents m'offraient des encyclopédies à Noël. J'ai toujours aimé regarder Il était une fois la vie, C'est pas sorcier, ce genre d'émission. Oui, ça m'a permis de m'interroger tout le temps sur comment fonctionnait le corps humain. J'ai toujours voulu en savoir plus sur comment nous fonctionnons. J'ai aussi toujours agi par plaisir, j'ai toujours fait des trucs qui me rendent heureux. Et finalement, j'ai toujours aussi accordé de l'importance à la liberté d'agir. C'est pourquoi je me suis dirigé vers la recherche. Et pour finir, quand je parle de mon boulot à tout le monde, je le compare à un mec qui construit sa maison. Dans le sens où parfois c'est dur, mais c'est tellement bon quand on voit que ça avance.
Et voilà, et donc du coup on peut reprendre sur ce que tu avais introduit, Camille. On va parler du débat public. Comment est-ce qu'on doit s'inscrire en tant que doctorant, en tant que chercheur, ou dans ce débat public ? Et c'est clairement ce qu'on est en train de faire maintenant, ici à la radio, tous ensemble. Mais peut-être sur des sujets un peu plus piquants, je sais pas. Vas-y, Alain.
Non, je voulais juste te dire que pour quelqu'un qui travaille, par exemple, comme moi en biologie, c'est vrai que bon, l'actualité n'appelle pas forcément moi, par exemple, à venir débattre. Moi, je travaille sur le développement de la mouche. Je pense que, eh bien, c'est pas évident forcément de faire un lien direct. Quoique, croyez-moi, on les trouve sur tous les continents. Elles sont drôlement intéressantes.
Mais
je suis bien heureux que la question vienne. Non, mais simplement pour dire qu'en fonction de nos sciences respectives, effectivement, moi, je sens que je vais pas avoir une contribution immédiate dans ce qui se passe autour de moi. Néanmoins, c'est avec le même plaisir que je partage ma science quand la question arrive. Mais simplement pour dire, voilà, il va falloir que je suscite l'intérêt dans mon cas. Et alors, il y a quand même des questions d'enjeux de société qui impliquent quand même des questions biologiques, les OGM et enfin tout ce qui est l'idée aussi d'une jeunesse éternelle, les travaux sur la vieillesse, etc. Mais il est vrai que voilà, peut-être est-ce qu'on est moins enclin, nous, biologistes, dans notre domaine, à participer au débat public, peut-être que des gens qui travaillent sur la société ou l'histoire.
Oui, mais après, c'est vrai que travailler sur la drosophile, donc la mouche, c'est un sujet qui bat de l'aile.
Très bien, ça.
Mais par exemple, sur les sciences sociales, ou l'anthropologie, ou la géo, on peut tomber sur des sujets beaucoup plus piquants et polémiques qui touchent à la politique, qui déchaînent les foules.
Qui nous énervent.
Il y a quelque chose qui t'énerve, Angélique, tu veux partager
avec
toi ?
Ah oui, mais je pense ne pas être la seule. Je pense que dès l'instant que tu travailles sur un sujet qui dérange, sur un sujet qui te révolte, de toute façon, moi, je l'ai dit, vous l'entendrez tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, je suis un peu révolutionnaire aussi dans l'âme, je pense. Je sais pas. Et quand j'entends, l'actualité, bon, elle a un petit peu vieilli, mais quand j'entends l'impact qu'a eu la tribune dans le monde, qui a été portée par Catherine Millet, Et quand je lis cette tribune et que je vois toutes les réactions qu'il y a autour, etc., ça, c'est vrai que ça énerve. Ça énerve parce que c'est un ramassis de concepts prémâchés, voilà, à peine réfléchis, et on mélange tout et on t'en fait une sauce exceptionnelle. Et donc, du coup, tu te poses la question, tu dis, alors voilà, est-ce que, à quel moment je vais pouvoir le dire ? Donc là, j'en profite, je suis contente. Donc j'en profite pour dire que, en fait, la représentativité qu'on nous donne, ça constitue une responsabilité. Et en fait, moi, je travaille, donc comme je disais tout à l'heure, je travaille sur la construction des représentations sociales. Ça veut dire que si on s'intéresse à la chose, en fait, une représentation, donc l'image qu'on se fait de quelque chose, une représentation, notamment la représentation de la place de la femme dans la société, elle va se construire par le débat, par la communication collective, et notamment par le débat public. Le débat public n'a pas vocation, finalement, à être un échange, mais qui a plutôt vocation à dire ce qu'on a envie de dire. D'accord. Aujourd'hui, quand moi j'entends les propos, ou que je subis plutôt ces propos-là, c'est-à-dire on va mélanger un petit peu la libération sexuelle avec l'égalité professionnelle, etc., ben là tu te dis, ok, c'est bien, mais donc les gens vont prendre un petit peu ça, et moi aussi éventuellement, pour acquis. Qu'est-ce que je fais, comment je peux le faire pour dire que je ne suis pas d'accord? Alors, ce qu'on disait avec Camille, on peut en effet intervenir dans les entreprises. Bon, en gestion, c'est vrai qu'on travaille là-dessus. On peut intervenir, par des blogs, etc. Mais est-ce que c'est notre place d'aller confronter ces personnes-là, quoi?
Ça veut dire quoi, s'inscrire dans le débat public? Qu'est-ce que ça veut dire? Partager dans le débat public, ça inclut quoi? Ça inclut seulement les médias?
Je crois que parler dans le débat public, quand on est chercheur en tout cas, c'est déjà légitimer notre interlocuteur. Voilà. Alors, c'est peut-être présomptueux de dire ça, c'est peut-être arrogant, mais moi je crois que quand on est chercheur, on se doit aussi de choisir avec qui on parle. Voilà. Je sais que c'est arrogant ce que je dis, mais parce qu'on est porteur aussi de choses qui nous dépassent, très clairement. Moi je suis pas d'accord, je pense que Catherine Millet, il faut la laisser où elle est, quoi. Voilà. En fait,
je pense que ça.
Si tu vas parler à Catherine Millet, tu vas aller légitimer la parole de Catherine Millet.
Alors, il y a eu des débats, des semaines et des semaines de débats sur Catherine Millet. Après, je suis d'accord, c'est en lien, mais.
Pour finir là-dessus, je vais pas aller débattre avec Éric Zemmour. Et en fait, je vois que les gens qui travaillent sur les questions migratoires ne vont pas débattre avec Éric Zemmour, parce que de toute manière, c'est légitimer Éric Zemmour dans sa démarche. Ça veut dire que lui dit des choses qui sont scientifiquement valides. Non.
Lui donner du crédit. Quoi.
C'est lui donner du crédit. Donc ça, je crois que dans le débat public, faut choisir où on va.
Ouais, mais du coup, si personne ne dit rien, il y a une seule parole. Mais qui?
Des gens des médias qui sont faits pour ça, qui sont dans ce système-là, qui acceptent le format. Moi, j'accepte pas le format. J'accepte le format Radio Grenouille. Oui. Mais personnellement, je n'accepte pas le format BFM TV ou ce genre de truc. Voilà, c'est tout.
Manon, vas-y.
En fait, moi, je dirais, le problème, c'est à partir de quel moment... Enfin, parce que tu peux glisser de ton statut de chercheur, en fait, de chercheur ou de... expert ou pseudo-expert, si tu juste que t'es pas encore trop expert sur ton sujet, au statut de militant, en fait. Et du coup, c'est-à-dire qu'à un moment on pourrait penser qu'à un moment donné tu vas plus te débattre sur des faits que tu connais, qui sont construits, qui sont vérifiés, mais plutôt sur des idées qui viennent seulement de toi. Alors à partir de quel moment, en fait, on glisse? Parce que c'est ça aussi le problème quand tu te mets face à des personnes qui sont justement très très qui sont sûres d'un fait. Comment tu fais, toi, pour légitimer ta position et justement pas glisser dans ce que les autres pourraient percevoir comme du militantisme?
Je sais pas, après, moi, comment je fais au jour le jour? Je vérifie mes sources, je vais lire beaucoup de choses différentes, et même si je sais que ça n'existe pas, je vais essayer de tendre vers une espèce d'objectivité, quoi. Si je vais en entreprise pour analyser le plafond de verre, une problématique de plafond de verre, une problématique de paroi de verre, et essayer de trouver des solutions pour améliorer les outils de gestion qui sont mis en place. Si j'arrive en disant « Ouais, c'est un scandale, le plafond de verre », même si je le pense sincèrement, ça va peut-être me faire perdre un petit peu de recul. En fait, je suis obligée de prendre du recul.
T'es investie, Angélique, hein? Camille aussi.
Non, mais c'est intéressant, c'est une très bonne question. Qui différencie le chercheur du militant quand on fait de la recherche qui est un peu militante? Moi, je veux dire un truc très simple, des militants, entre guillemets, qui soutiennent la cause des migrants, etc., on en trouve plein. des militants qui connaissent des migrants, on en trouve très peu, et des militants qui vont sur le terrain faire des études avec une méthodologie, un protocole précis, on en trouve encore moins. Donc ce qui me différencie du militant, c'est que moi, ce que je dis, ça se base sur des observations qui sont réelles. Voilà.
Oui, mais comment tu fais, c'est par rapport, alors je suis pas du tout sociologue, donc je vais peut-être dire une énormité, tu
je
me rattraperas.
Je suis pas sociologue. Non,
gestionnaire,
plus,
pardon. Gestionnaire. Mais c'est par rapport à quel moment, enfin comment tu fais pour que justement les gens, ils te perçoivent toi comme un chercheur par rapport à ce que tu dis, enfin comme quelqu'un, pas forcément quelqu'un qui apporte la vérité, mais qui au moins essaie de construire son discours. Comment tu fais pour rester dans cette position-là et pour que les gens te perçoivent comme ça plutôt que comme quelqu'un qui défend son bistec, ses idées, parce qu'il est militant? C'était ça.
Il y a deux choses. Il y a premièrement l'institution qui nous soutient et qui nous fournit un statut, etc. Et il y a tous les travaux qui ont été faits sur cette question. Et sur lesquels, en science en tout cas, c'est ce qui nous différencie des journalistes, peut-être sur certains cas, pas tous, c'est que nous, quand on parle d'un concept, d'un sujet, de quelque chose, on se réfère à des travaux scientifiques. Voilà. C'est les deux seules choses qui nous permettent de... Puis c'est le protocole de méthodologique, quoi. Voilà.
Disons à beaucoup de travaux scientifiques, parce que je pense que... Bah, y a des... bah, quand tu fais une revue de littérature, c'est pas 10 pages. C'est 70 pages, c'est 120 pages. Donc tu vas analyser énormément d'articles, énormément de courants, tu vas confronter les idées pour pouvoir après, derrière, te sortir une problématique, etc. Je pense qu'en entreprise, sincèrement, si tu, en tant que gestionnaire, si tu arrives en entreprise en disant « tu connais tout, tu as tout compris, tu es un expert de ton sujet », tu passes pour une bille. Parce qu'en fait, eux... l'entreprise, elle vit au quotidien ses problématiques, elle a son jargon, elle a ses process, etc. Toi, en fait, t'arrives juste en disant, voilà, moi, ça fait 4 ans que je travaille sur le sujet, j'ai lu énormément de choses, je connais les process, les best practices, si tu préfères, etc. Mais ce qui est important, c'est une analyse contextuelle, etc. etc. Donc toi, t'arrives avec une expertise, somme toute, même si t'aimes pas le terme. Ben oui, mais t'arrives avec une expertise. Ton expertise, c'est 4 ans de ta vie à faire que ça.
C'est un super débat. Mais je pense qu'on va continuer autour de la bière après l'enregistrement, s'il a l'air long celui-là. Hein.
Ouais.
Mais par contre, on va vous écouter encore un tout petit peu avec vos deux chroniques.
Donc je m'appelle Angélique Vuillemet, je suis en troisième année de thèse en sciences de gestion et je travaille sur la question des inégalités professionnelles basées sur le genre et notamment l'impact des représentations que la société se fait de la place de la femme sur les carrières féminines. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce métier? Tout simplement, à l'origine, j'ai été confrontée par le dilemme carrière-maternité, c'est-à-dire quand faire un enfant pour pas que ça affecte ma volonté de faire carrière et d'évoluer. Et quand j'ai commencé en fait à creuser, je me suis rendu compte que c'était que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que les inégalités, elles sont partout, elles sont pas que dans la sphère professionnelle. Et en fait, c'est une demande sociale. Il y a énormément de choses qui se font là-dessus. Et ça m'a révoltée en fait. Ça m'a révoltée. Donc derrière mon travail, il y a une réelle volonté de justice sociale. Voilà. Après, dans ma famille, depuis que je suis petite, j'ai l'image d'une révolutionnaire et je crois qu'en fait, ils ont raison.
Je m'appelle Camille Cassarini. Je travaille sur les migrations africaines en Tunisie. Plus précisément, sur les populations migrantes et sur le champ de l'assistance qui y est rattaché. J'essaie de comprendre comment se matérialise une nouvelle forme de contrôle migratoire à nos frontières sud, au Maghreb. Pourquoi ce sujet? Pourquoi une thèse? Parce que j'étais rebelle étant petit? Parce que je suis aussi le fils d'une migrante? Et d'un descendant de migrants. Parce que la recherche m'a apporté les réponses que j'attendais, que les idées peuvent être des armes et qu'on ne doit pas se résoudre à la déshumanisation.
Bon, et maintenant on clôture le débat, voilà, c'est fini. Et on va attaquer quelque chose de plus léger, hein, un peu plus aérien, bucolique, à la manière de Manon. Mais c'est Geoffrey qui va commencer à nous parler de cette question. Et je vais l'énoncer clairement. Y a-t-il un décalage entre vos premières expériences de chercheur et l'image que vous vous en faisiez? Elle est intéressante celle-là, n'est-ce pas?
Elle est très intéressante, mais c'est assez difficile d'en parler à mon sujet vu que je suis un nouveau chercheur. Et je pense que le seul décalage entre ce que j'imaginais et ce que je fais à l'heure actuelle, c'est en fin de compte la quantité de travail. J'ai perdu cette habitude de travailler et la conclusion que j'en tire à l'heure actuelle, c'est que je suis fatigué. Mais après, comme je dis dans ma chronique, j'aime ce que je fais et c'est toujours avec plaisir que je vais travailler, quoi. Je construis un truc et j'irai jusqu'au bout, c'est promis.
Alain, t'as un truc ?
Oui, non, alors moi je suis en quatrième année de thèse, ça ne me rend pas plus légitime pour y répondre. Simplement, moi ce que je voudrais dire, c'est que pour moi la grande différence, c'est que quand je lisais un article scientifique avant, j'avais aucune idée de la manière dont était générée la connaissance, vraiment, vraiment pas. Et puis quand je suis rentré dans un laboratoire, j'ai vu finalement comment est-ce qu'elle était produite. J'ai vu que derrière il y a des hommes et des femmes et que finalement la connaissance c'est un produit humain qui est discutable aussi par certains côtés. Et donc finalement je dirais avec un peu de recul maintenant, je suis toujours aussi excité à l'idée d'une découverte scientifique. Simplement je conçois aussi qu'il faut aussi prendre un petit peu de, pas être méfiant mais considérer que comme toujours en science, c'est une vérité imparfaite. Donc ça m'a pas... Je garde une excitation, mais je crois qu'il faudrait être conscient de ça.
Adrien, vas-y.
Je pense qu'on s'est tous rendu compte à un moment qu'il y avait un côté humain, parce que c'est vrai que quand on est étudiant en première année, on a le prof, enfin, en tout cas en archéologie, qui allait sur tous les terrains, tout ça, on s'est dit, ouais, je vais aller sur le terrain aussi, puis on y va. Mais au début, c'est bien, enfin, on découvre plein de choses, mais bon, après passer 3 mois à 40 degrés avec une pioche à côté d'une paire mécanique, c'est pas toujours non plus très excitant. Il y a un côté humain qui est assez difficile, et je pense que ça, on s'en aperçoit au fur et à mesure. Quand on arrive à master, en doctorat, on voit qu'on a affaire à des humains, et qu'on est des humains aussi. Mmh. Voilà.
Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez remarqué, mais quand on arrive dans le monde du travail, dans le monde de la recherche, je pense que ça fait ça avec tous les travails, il faut être clair, mais c'est le manque d'enthousiasme. C'est que on arrive, on a des étoiles plein les yeux, on va sauver le monde avec nos recherches, on va dire qu'on va parler de notre thématique et puis ça va tout changer. Sauf que en fait, des fois, on a des interlocuteurs qui sont pas très intéressés ou qui sont un peu désabusés par les années et les années et les pellicules qui s'amassent. Et donc ça me fait énormément penser au texte de Céline, de Louis-Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit. Et donc on va vous passer un extrait.
Vous avez vu mon garçon, confrère ? Vous l'avez vu, mon vieux crétin de garçon ? Eh bien, voici 30 ans bientôt qu'à balayer mes ordures, il entend autour de lui ne parler que de science, et fort copieusement, et sincèrement, ma foi. Cependant, loin d'en être dégoûté, c'est lui, et lui seul à présent, qui a fini par y croire ici même. À force de tripoter mes cultures, il les trouve merveilleuses, il s'en pourlèche, la moindre de mes singeries l'enivre. N'en va-t-il pas d'ailleurs de même dans toutes les religions ? N'y a-t-il point belle lurette que le prêtre pense à tout autre chose qu'au bon Dieu que son bedeau y croit encore ? Et dur comme fer ! C'est à vomir en vérité.
Toi Manon, est-ce que t'as quelque chose un peu de cocasse à nous révéler sur, je sais pas, des décalages que t'aurais eu en arrivant à...
Si, alors un des décalages c'est que quand... C'est par rapport au travail de chercheur, quand on est encore étudiant et qu'on fait de la recherche, on est... Il fait des bruits d'azo parce que je suis bucolique. Donc on apprend par exemple à faire des analyses statistiques, en particulier quand on est dans le tout ce qui est sciences de l'environnement. Puis on a toujours des super tableaux de données, on fait des stats, bon, on galère, c'est vrai, etc. Et puis moi, j'ai été confrontée à quelque chose auquel je n'étais pas du tout préparée, c'est que forcément les données, donc il a fallu que je les crée moi-même, donc j'aille sur le terrain les chercher, ça c'était super chouette. Puis après il a fallu que je les mette dans un tableau Excel, le problème c'est que j'en ai des milliers. Et elles ne sont pas du tout comme je voulais qu'elles soient, donc j'y suis encore, j'ai passé des heures à mettre mes données en forme pour pouvoir faire quelque chose avec. Et ça m'a profondément déprimée parce que c'est très inintéressant. On est obligé de le faire. Et ça, j'étais pas prête. Mais maintenant, je rigole. Tout le monde me connaît, moi et mes tableaux. Voilà, c'était mon anecdote rigolote.
Je trouve qu'il y a un décalage aussi énorme. C'est, nous, on est en écologie avec Manon. Et l'écologie, pour moi, ça rimait avec être sur le terrain et mettre les pieds dans la terre et je sais pas, manger des feuilles ou quoi que ce soit.
Ouais.
Mais là, ça fait bientôt 2 ans que je suis à peu près vraiment dans la recherche. Et en fait, je vais plus sur le terrain, je fais plus rien. Bon, là, je recommence un peu avec le début de ma thèse. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on perd le sens de notre travail aussi à s'éloigner dans les cases Excel et le code R. Je trouve ça aberrant, en fait. Et du coup, je vais caler ma chronique ici. Parce que j'avais bien envie de la mettre là. Elle est assez rigolote. Et puis, j'ai bien envie qu'on finisse sur une bonne note. Parler de motivation en science
pour moi, c'est quelque chose de très cocasse. Je me présente, je m'appelle Bastien, je suis doctorant en première année en écologie forestière. Mais l'histoire de ma motivation, elle n'a pas commencé ici, elle a commencé en Seine-et-Marne en 99, où je m'ennuyais à mourir dans la maison de mes parents qui n'étaient pas là. Et au lieu de me plonger dans un livre ou de construire une maison en Lego, je suis sorti dehors. Et il pleuvait, comme d'habitude. Et à soulever des cailloux, des tuiles et regarder sur le tronc des arbres, à force, j'ai trouvé quelque chose de superbe. C'était un accouplement d'escargots. Je le savais pas à l'époque, mais ils avaient l'air de prendre leurs pieds. Et puis, je suis resté là, à les regarder pendant presque une heure, deux heures, je sais plus, j'avais 8 ans. Hein. Et donc, j'étais là à les regarder, à rien comprendre. Et pourtant, ça me fascinait. Je me posais des milliards et des milliards de questions. Je suis rentré chez moi et je me suis demandé comment répondre à toutes ces questions. Alors qu'en 99, la seule ouverture vers l'extérieur, ça s'appelle un Minitel. Et maintenant, c'est facile, on a Internet et on a Wikipédia. Mais à l'époque, la seule chose que j'ai pu faire, c'est me plonger dans les encyclopédies et essayer de comprendre pourquoi cette espèce de repas de réveillon mal digéré avait lieu d'être dans mon jardin. Et j'ai appris des milliards de choses. J'ai appris que un accouplement d'escargots, ça durait 10 à 15 heures. J'ai aussi appris que avant l'accouplement, ce qu'on peut appeler des préliminaires, qui durent aussi 2 heures, ils se lancent des dards remplis d'hormones. Et j'ai appris que c'était la naissance la base de la naissance du mythe de Cupidon. Et voilà, ma motivation en science, elle a commencé là. Elle a commencé par le fait d'observer ce qui se passait autour, essayer de comprendre le monde et essayer d'y répondre avec les outils qu'on avait. Et maintenant, je suis en première année de thèse en écologie forestière et je crame des trucs. Voilà, et puis je sais pas, est-ce que Clara, t'as pas un truc, je sais pas, rigolo en sciences sociales?
Ah, c'est pas rigolo.
Niveau sciences sociales, on n'a pas trop rigolé encore.
C'est pas rigolo en fait. Bon, je peux raconter quelque chose de pas rigolo?
Non, c'est la censure, là c'est uniquement des trucs rigolos que tu peux dire.
Allez, vas-y, s'il te plaît.
Ah oui, non, mais c'est vraiment pas rigolo.
Mais vas-y.
Moi, c'est plutôt d'arriver en tant que chercheur, ou en tout cas d'avoir une position de chercheur à un moment donné sur un terrain. C'est plus ce qui m'a désenchantée, c'est plus la relation avec le terrain, justement, en me demandant comment moi, en n'ayant jamais vraiment travaillé dans le développement, je peux aller dicter aux autres vraiment la bonne voie à suivre ou formuler des recommandations pour les autres, sachant que je n'ai jamais vraiment travaillé dans ce milieu-là. Et je trouve que les sciences sociales, on est souvent confronté à ça, notamment en gestion principalement, en sociologie aussi, ou sociologie du travail principalement, ou n'ayant jamais vraiment travaillé sous prétexte d'avoir beaucoup lu, d'avoir des protocoles méthodologiques très précis, on peut expliquer ce qu'est le monde du travail, ce qu'est le monde du développement, ce qu'est le monde de l'entreprise, des organisations, alors qu'on ne l'a jamais vraiment vécu. Et ça, je crois que j'ai vraiment du mal à vivre avec.
Alors, je vais préciser, il y a quand même pas mal de chercheurs en gestion qui ont travaillé avant.
Oui,
comme moi, ouais, bon, il n'y a pas que moi, mais il y en a. Mais c'est vrai que, après, moi, c'était un choix, parce que j'avais ton point de vue. Quand j'ai fini mes études, il y a moult années. Donc, du coup, non, mais l'expertise, je suis désolée, tu peux être expert en ayant lu des choses, en t'intéressant à un sujet. T'es pas obligé d'avoir travaillé, d'avoir fait des recrutements pour pouvoir faire de la recherche en gestion des ressources humaines. Tu vois ce que je veux dire?
Ok, donc pour clôturer tout ça, Geoffrey, t'as quoi à nous présenter là, en clôture musicale?
J'ai rien à présenter du tout, mais c'est pas moi qui vais chanter déjà, je vous satisfais tous. Donc en fait, pour clôturer le débat, je voulais passer une chanson qui s'appelle Fuzz, avec Ty Segall à la batterie au chant, pour les initiés. Et en fin de compte, le titre de la chanson c'est What's in my head, parce que au final, quand on est docteur, quand on est chercheur, c'est un peu tout le point du problème, tout le questionnement, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a dans la tête, et on se pose vraiment beaucoup de questions, donc voilà. Et au final, je voulais remercier Radio Grenouille de nous avoir donné la parole. C'était vraiment cool. C'est la première fois pour tout le monde qu'on est derrière le micro, Et personne ne l'a dit, mais franchement, c'était une chouette expérience. Et franchement, merci beaucoup, quoi. Si c'était à refaire, je le referais.
Merci. Voilà.
Merci.
Au revoir. Merci.
En espérant que ces quelques témoignages aient pu vous éclairer sur nos réalités personnelles et professionnelles, c'était l'émission Profession chercheur, co-organisée par Philippe Hert, Nicolas Chevassu, Jérôme Mathéo, Gilles Ali Amiche, Radio Grenouille et le Collège doctoral d'Aix-Marseille Université.
Merci beaucoup.